Expression.
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 Pluriel. Pluriel.
Expression plurielle.
Expression plurielle.
Pendant les vacances d'avril, on a fait un atelier radio avec Eva, qui est animatrice au Palabre. Elle accompagne le groupe des 11-15 ans. L'idée, c'était de préparer un cycle d'ateliers radio pour les vacances d'été et de partir des propositions et des envies des jeunes du Palabre, de choisir ensemble de quoi on allait parler et aussi de présenter les enjeux d'une radio associative à visée pédagogique.
Là, c'est bon, ça enregistre.
Ok. Pour faire émerger des idées, on a animé des petits jeux d'interconnaissance et je suis repartie avec ça dans mon enregistreur Edirol.
J'aimerais parler du handicap.
Comment interagir avec les gens handicapés.
Et leur histoire.
L'autisme.
Moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler des handicaps invisibles. Et de qu'est-ce que c'est qu'un handicap invisible.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi certaines personnes rejettent des personnes handicapées.
Avec Eva, on s'est bien creusé la tête ensuite. Comment aborder ces questions et comment en faire un moment de radio. On a aussi consulté pas mal de ressources autour de la notion de handicap invisible, notamment la bande dessinée La différence invisible de Julie Daché. C'est une BD autobiographique où l'autrice découvre à 27 ans qu'elle est autiste Asperger. On a aussi découvert la chaîne YouTube de Alistair qui explique beaucoup de choses sur le modèle social du handicap, l'autisme, la notion de handicap invisible en particulier. Et ça nous a donné envie de partager toutes ces ressources avec les jeunes du Palabre, alors on a organisé un premier temps pour ça. Et voici un extrait d'une vidéo de Alistair qu'on a visionné ensemble.
Il n'y a jamais eu autant de voitures qui passent en bas de chez moi que quand je tourne une vidéo. C'est incroyable. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est H Paradoxae, et cette semaine, c'était la semaine des handicaps invisibles. Faux, c'était la semaine dernière, mais je n'ai pas pu tourner de vidéo à temps parce que je suis handicapée. Qui l'eût cru? Des handicaps dits invisibles, j'en ai plein, j'en ai genre 6, je crois. Et s'il y a un truc que j'ai appris de cette expérience, c'est que, plot twist, les handicaps invisibles n'existent pas. Reprenons les choses dans l'ordre. Pourquoi parle-t-on de handicap invisible? Comme vous l'avez probablement deviné, un handicap invisible, c'est un handicap qui est invisible. C'est plutôt évident, mais au moins comme ça, je suis sûre qu'on est tous sur la même base. Or, le problème, c'est que quand on parle de handicap, les gens pensent souvent à des handicaps visibles. Dans la tête de beaucoup de personnes, une personne handicapée, ça va être une personne en fauteuil roulant, par exemple, ou une personne trisomique. Et ce sont effectivement des personnes handicapées, mais dont le handicap est la majorité du temps visible. Tchia ! Le deuxième problème, c'est que l'on vit dans une société qui n'est pas adaptée aux personnes handicapées. Et que par conséquent, quand on est handicapé, on va souvent avoir besoin de demander des aménagements, des accommodations, ce genre de choses. Parce que par défaut, beaucoup de choses nous sont inaccessibles. Et du coup, quand un handicap ne se voit pas, l'accès à ces aménagements va souvent être réduit. Par exemple, une personne qui a une hernie discale et qui ne peut pas monter les escaliers va parfois se voir refuser le droit d'avoir accès à un ascenseur parce que de l'extérieur ça ne se voit pas et donc on présume qu'elle est capable de monter les escaliers. C'est pour pouvoir parler de ces problématiques-là qu'on a développé le concept de handicap invisible. L'idée, c'est de faire savoir aux personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment que le handicap, ça peut être plein de choses, dont des choses qui ne se voient pas forcément mais qui sont réellement handicapantes et qui nécessitent des aménagements. Et ces revendications-là, elles sont tout à fait légitimes. Si on veut prendre en charge correctement les personnes handicapées, les respecter et leur apporter un maximum d'accessibilité, il est primordial de comprendre qu'on ne peut pas dire d'une personne qu'elle n'est pas handicapée ou qu'elle n'a pas besoin d'une certaine aide du premier coup d'œil comme ça. Néanmoins, l'expression « handicap invisible » me dérange pour plusieurs raisons. La vérité, c'est qu'aucun handicap n'est réellement invisible. Et c'est évident en fait, parce que nous sommes handicapés, donc pas capables de fonctionner de la même manière que les autres dans un même environnement, donc ça se voit. Aucun handicap n'est invisible en toutes circonstances puisque le handicap va forcément nous impacter à un moment donné. Néanmoins, il reste vrai que certains handicaps peuvent être invisibles dans certaines circonstances. Par exemple, une personne qui a une maladie qui se manifeste par crise, mais qui, en dehors de ces crises-là, est fonctionnelle, si vous la croisez dans la rue à un moment où elle n'est pas en crise, ce handicap sera, à ce moment-là, invisible. Ou par exemple, une personne sourde, si vous la croisez dans la rue, que vous parlez pas avec elle et qu'elle a pas un implant ou un appareil auditif qui est visible à ce moment-là, son handicap sera invisible invisibles aussi. Mais bien plus souvent, ce qui rend nos handicaps invisibles, c'est l'ignorance de ce que sont nos handicaps et de ce qu'est le handicap en général. La dyslexie, par exemple, est parfois qualifiée de handicap invisible, et effectivement, vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un est dyslexique en le croisant dans la rue. Mais si vous voyez une personne dyslexique en train d'écrire ou de lire, vous allez vous rendre compte qu'elle est dyslexique, ou au moins qu'elle est handicapée, parce que ça se voit. Ça se voit, sauf si, et c'est là qu'est tout le cœur du problème, sauf si vous considérez que quand une personne galère à lire ou à écrire, c'est parce qu'elle ne fait pas assez d'efforts ou qu'elle est bête. Et dans ce cas, oui, vous allez passer à côté de sa dyslexie. Mais ce n'est pas parce que la dyslexie est invisible, c'est parce que vous avez refusé de la voir. Et pour moi, c'est ça un des gros problèmes de parler de handicap invisible. Ça donne l'impression que si les handicaps ne sont pas perçus, diagnostiqués, pris en charge et crus, c'est parce qu'ils ne se voient pas, alors que bien plus souvent, c'est parce que les gens sont dans le déni ou dans l'ignorance de ce que sont les handicaps. Et du coup, quelque part, il y a un peu l'idée aussi que c'est pas la faute des personnes qui vous ont refusé vos aménagements, ça se voyait pas. C'est pas la faute des médecins qui vous ont laissé en errance diagnostique pendant des années, ça se voyait pas. Et c'est faux. Mais c'est encore plus vicieux que ça, parce que ce n'est pas juste que les gens ne voient pas que vous êtes handicapé et qu'ils pensent donc que vous êtes valide et en bonne santé. Non, non, non! Je vais parler un peu plus des handicaps psy, parce que c'est dans ce contexte-là que ça a été le plus évident pour moi, mais je suis à peu près sûre que ça marche pour n'importe quel handicap. Je suis autiste, c'est un handicap. Je suis autiste depuis que je suis née, j'ai été diagnostiquée à 21 ans. Quand j'ai commencé à dire publiquement que j'étais autiste, j'ai reçu énormément de messages qui m'accusaient de mentir, qui disaient que j'inventais mon handicap, ce genre de choses. J'en ai même fait une vidéo que je vous mets dans le i si vous voulez avoir un aperçu un peu plus détaillé de ce dont je parle. Mais ces messages, pour un très grand nombre, ils ne disaient pas « tu n'es pas autiste, tu n'es pas handicapé, tu es normal ». Ils disaient plutôt « tu n'es pas normal, mais tu n'es pas autiste. Tu as un grain, mais pas celui-là. Tu n'es pas autiste, tu es juste stupide. » Enfin, vous voyez le concept, quoi. Ça se voit, en fait, que j'ai un handicap psy. On me le dit, on me le reproche. Et là, je parle d'Internet, mais il y a aussi, par exemple, la majorité des enfants handicapés qui se sont fait harceler à l'école, toujours avec cette raison qu'ils avaient l'air bizarres ou différents. Et donc, on voit bien que le handicap n'est pas invisible. Il est visible, mais il va pas être traité comme un handicap, mais plutôt comme une bizarrerie ou un défaut. Et qualifier les handicaps de invisibles, c'est effacer toute cette histoire de violence qui est la nôtre. On va qualifier mon autisme de handicap invisible. On m'a déjà dit, ça ne se voit pas que tu es autiste. Mais ça se voit. Ça se voit quand je fais une crise autistique parce qu'une consigne n'est pas logique en cours et que je m'enferme en criant dans les toilettes. Mais on va dire que c'est un caprice. Ça se voit quand je maigris chaque semaine que je passe pas chez moi parce que je peux pas manger des aliments qui correspondent pas à mes routines alimentaires. Mais on va dire que je suis difficile. Ça se voit que je suis autiste. Mais les gens n'interprètent pas ça comme de l'autisme. En conclusion, pour moi, le propos ici, c'est pas de dire que l'expression « handicap invisible » elle est problématique et qu'elle devrait être bannie. Je pense qu'il peut être utile pour expliquer que tous les handicaps ne se voient pas forcément dans tous les contextes, ne sont pas forcément évidents, et qu'on ne peut pas présumer qu'une personne n'est pas handicapée juste parce que nous, on ne le voit pas. Je pense que c'est un concept qui est utile pour une première approche de cette thématique. Mais je pense aussi qu'il est important et primordial même de pousser cette réflexion plus loin et de se rendre compte que souvent, il ne s'agit pas d'invisibilité, mais d'invisibilisation. Je reviendrai sûrement là-dessus dans d'autres vidéos, parce que c'est un enjeu central sur d'autres thématiques dont j'ai envie de parler, comme les étiquettes de fonctionnement, l'errance médicale et encore d'autres choses. Mais en attendant, si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serais ravie de vous lire et de vous répondre si je peux. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à dans 2 semaines.
Nous avons vu une vidéo.
Quel est le titre ?
Les handicaps invisibles.
Qui est l'auteur ou l'autrice ?
L'auteur c'est Alistair et sa chaîne H Paradoxae.
Si vous deviez dire un coup de cœur.
C'est bien expliqué. Aussi c'est une bonne chose de faire une vidéo qui parle de ces handicaps pour expliquer ce que c'est et de sensibiliser les gens.
Après ce partage de ressources, c'est un jeu de plateau que j'ai sorti de ma mallette d'animatrice radio. Un jeu qui s'appelle Feelings.
En fait, c'est un jeu où il y a un plateau avec 6 émotions, 3 positives et 3 négatives. Et nous, on a les symboles qui représentent les émotions qu'il y a sur le plateau. Et on a des situations.
On dit à voix haute la situation. Ensuite, toi, du coup, tu te dis, bah, moi, je vais prendre ça.
Et après, avec nos cartes, on les retourne pour pas qu'on voie et on les pose.
Ensuite, celui qui a lu la carte, il dit, bah, moi, je pense que toi, tu as cette émotion parce que ta. Et si, bah, si tu as bon, tu avances, tu as un point, tu avances donc d'une case. Et si tu n'as pas bon, bah, tu n'avances pas. Quand on a tous fini, on a tous parlé. On fait le score et on voit le nombre de comment ça s'appelle déjà, le nombre d'empathie que le groupe a.
Et qu'est-ce que c'est l'empathie? Je pense que c'est le pouvoir de comprendre les autres et de comprendre ce qu'ils ressentent.
Par exemple, il y a quelqu'un qui est pas bien, tu vas essayer de l'aider, tu vas pas essayer de lui mettre la tête sous l'eau, tu vas essayer, oui, de... Tu le comprends, quoi.
Il existe plusieurs versions du jeu Feelings et c'est aussi possible de créer nos propres cartes à partir d'une plateforme en ligne. En fait, on peut inventer des situations et les éditer en cartes. C'est ce qu'on a fait et voici quelques situations qu'on a créées pour réfléchir au handicap invisible. Ta cousine te dit que tu es différente des autres et que c'est pour ça qu'elle t'apprécie. Ton meilleur copain est dyslexique et il a un tiers-temps pour réaliser les évaluations en classe. Il a des meilleures notes que toi dans la plupart des matières. Tu ne comprends pas les consignes du prof. Le prof s'énerve contre toi. Un groupe d'élèves de ta classe prend ta défense. Ton frère est diagnostiqué autiste par un médecin. Il te dit que ça l'aide à se sentir mieux de savoir ça. On a joué à Feelings avec ces cartes et avec d'autres cartes encore qu'on avait inventées. Pendant le jeu, les jeunes ont préféré qu'on ne sorte pas les micros. Parce que c'était important pour elles et eux de pouvoir parler librement. Par contre, on a installé le studio mobile de la radio Info RC à la fin de l'atelier et on a raconté ce que ça nous a fait de jouer à Feelings dans le but de vous le partager.
Nous sommes sur Info RC pour présenter les émotions avec
Jade,
Ambre,
Eva,
Loïs,
Julia,
Mathis,
Neila,
Kerwan,
Colline.
Moi c'est Carlo.
Et moi c'est Reneila.
Et nous sommes des ados de 11 à 15 ans du Palabre.
Non, voilà. Moi j'ai 10.
10 à 15 ans.
C'est parti. Bonjour. Je suis au Palabre avec des jeunes avec qui on a fait un jeu autour des émotions. Je vais laisser la parole à Eva, animatrice au Palabre, qui va vous poser des questions sur ce jeu.
Armée de l'anti-moustique.
Armée de l'anti-moustique. Pardon, j'ai fait une pause anti-moustique.
Ah ouais, ça sent.
Eh bien, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu ?
J'en ai pensé qu'il était bien, parce que ça apprend à voir comment les autres pensent, pensent les émotions dans leur cœur.
Moi, ce jeu, je l'ai bien aimé parce que ça montre que ça nous apprend à savoir ce que ressentent les autres. Et aussi, ça peut montrer qu'en vrai, on a un peu tous les mêmes émotions, qu'on peut ressentir selon la situation les mêmes émotions.
Est-ce que vous avez eu l'impression que sur une même situation, vous avez tous ressenti à chaque fois la même émotion ?
Moi, je dirais presque tout le temps la compassion. Aussi, il y en a quelques-unes différentes, mais après, c'est chacun a des émotions différentes.
Et vous
Pour moi, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient les mêmes émotions. Des fois, quand même, mais pas tout le temps.
Il n'y avait pas souvent les mêmes émotions, mais on apprenait ce que les autres pensaient. On voyait d'un autre point de vue et c'était très bien.
Pas trop près.
Je pense aussi que plusieurs fois, il y a eu souvent bien les mêmes émotions à plusieurs reprises, mais il y en avait certaines qui se démarquaient d'autres, qui avaient d'autres sens. Donc à chaque fois que les 6 émotions étaient sur la table, on avait tous un moyen d'avoir les 6 ensemble. Il n'y avait aucun moyen qu'on prenne qu'une seule de chaque.
Tu veux dire que c'était impossible qu'on ressente tous et toutes la même émotion sur une même situation, c'est ça ?
Un peu, mais je veux dire qu'on peut ressentir les 6 émotions en même temps. Genre on peut avoir de la compassion ainsi que de la confiance, de la colère, de la tristesse, de la joie, enfin toutes les émotions possibles et imaginables, dans toutes les situations possibles et imaginables.
Ok, donc en fait il y avait plein d'émotions et nous on devait en choisir une, la plus forte, celle qu'on ressentait le plus fort.
Oui.
Mais qu'en fait toutes les émotions ou presque pouvaient fonctionner.
C'est ça.
Ok.
C'est vrai que en vrai ce jeu on en choisit qu'une seule émotion, mais c'est quand même des fois compliqué parce que selon la situation, moi des fois je pouvais ressentir par exemple en même temps de la colère et de la tristesse, mais tu peux en choisir qu'une, donc c'était un peu compliqué. Tu peux aussi, par exemple, des fois tu peux pleurer de joie. Pleurer, c'est un peu de la tristesse, mais il y a aussi de la joie. Du coup, tu peux avoir aussi des fois plusieurs émotions en même temps.
Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est l'émotion qu'on ressent le plus fort. Et des fois, l'émotion qu'on ressentait, c'était pas vraiment celle-là. Par exemple, Tilia, t'avais ressenti quelque chose, mais c'était pas dans les cartes, donc t'avais pris l'émotion qui ressemblait le plus à celle que tu ressentais. Donc c'était aussi bien de voir qu'en fait il n'y avait pas tout le temps la même émotion. Il pouvait y en avoir aussi d'autres qui voulaient dire la même chose.
Et est-ce qu'à certains moments, vous vous êtes dit « Ah non, c'est pas possible de ressentir cette émotion, j'y aurais jamais pensé. »
Oui.
Moi aussi, oui, parce que par exemple, il y avait le dégoût à un moment, et le dégoût, pour moi, en vrai, je ressens pas souvent dégoût, à part par exemple quand j'aime pas par exemple quelque chose, par exemple un aliment, mais c'est très rare, et puis aussi si j'aime pas quelqu'un. Mais moi, c'est vrai que le dégoût, même dans les situations qu'il y avait, tu pouvais pas normalement ressentir de dégoût.
Dans une situation, on est « Ah ben c'est sûr, c'est ça !» Mais après, quand on entend les autres, on se dit « Ah ben oui, en fait, ça pouvait être ça !» Du coup, on apprend à découvrir d'autres émotions et à les utiliser.
Et à les voir différemment aussi.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des émotions que vous avez découvertes, de nouvelles émotions ?
Non, pas vraiment, mais on a découvert que certaines émotions pouvaient prendre d'autres rôles et que c'était pas tout le temps la joie, la tristesse, la colère, qu'il y en avait plein d'autres.
J'ai l'impression qu'il y avait une émotion qu'il y en avait certains qui connaissaient pas au début.
La compassion ?
La compassion, oui, parce que moi je la connaissais pas. En vrai, je connaissais l'émotion, mais je connaissais pas le nom de cette émotion.
Qu'est-ce que ça change de connaître le nom d'une émotion ? Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que ça change rien ?
Pour moi, ça change un petit peu rien, parce que je trouve que on ne la dit pas, mais on la sent.
On la sent ? Et alors, comment tu sens, par exemple, la compassion ? Ça te fait quoi dans ton corps ?
C'est bien d'aider les personnes, donc je trouve que c'est bien.
Moi, je trouve que connaître comment s'appellent ces émotions, ça peut être bien dans certains cas, parce que si par exemple t'as une personne qui est pas bien, mais en fait elle le fait pas, devant toi elle le montre pas, savoir si c'est de la tristesse ou pas, comme ça tu peux l'aider, et c'est sûr que c'est bien de savoir quand même un peu le nom de tes émotions.
Moi, je ressens un peu de désolement des fois, parce que quand la personne elle est triste, je suis triste pour elle et je suis un peu désolée pour elle, même si c'est pas de ma faute. Je sais que c'est pas de ma faute, mais des fois, ça fait du bien aussi de comprendre les gens. Et si elle est joyeuse, et que moi je suis triste, je me sentirai quand même joyeuse parce que je suis contente pour elle, et ça, je trouve ça bien.
Et tout à l'heure, j'entendais émotions négatives, émotions positives. Vous pensez vraiment qu'il y a des émotions négatives et des émotions positives ?
Je pense qu'il y en a aussi entre les deux, mais on peut les prendre dans les deux côtés.
Oui, parce que quand même, il y a des émotions qui sont pas... Par exemple, il y a des émotions comme le dégoût, c'est pas une émotion... c'est très bien, quoi, parce que, enfin, ça dépend pourquoi, mais si par exemple t'es dégoûté d'une personne, c'est pas une émotion qui est très bien, parce que c'est méchant, quoi, d'être dégoûté d'une personne. Mais après, selon le cas, par exemple, si tu es triste pour une personne, c'est quand même une émotion positive, parce que c'est aussi un peu à la fois négatif parce que c'est pas une émotion qu'on aimerait avoir tous les jours, mais positif parce que ça montre que tu aimes aider les autres.
Par exemple, le dégoût, tu dis que c'est une émotion négative. Mais pour moi, si par exemple je suis dégoûtée par du caca, par exemple, du coup je le mange pas. Donc c'est une émotion finalement qui est plutôt positive parce qu'elle m'aide à survivre. Enfin, elle a une fonction, quoi. Comme ça, je suis pas intoxiquée. Ou par... Bon, le caca c'est peut-être un exemple extrême, mais par du moisi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ?
Moi, je trouve que aussi le dégoût, c'est une émotion positive. Parce que, par exemple, je suis dégoûtée de ne pas aller à un anniversaire. Et donc, ça veut dire que tu penses à ton ami et que tu te dis « Ah, j'ai pas pu y aller, donc... » Du coup, tu penses à ton ami.
Positive au sens où elle te donne de l'énergie pour faire des choses, par exemple ?
Non, juste parce que tu penses que vu que tu peux pas y aller, tu es un petit peu triste. Donc, ça veut dire que tu penses à ton ami que... Tu le considères vraiment comme un ami ?
Jade, tout à l'heure, tu disais que dans aucune des situations, on pouvait ressentir le dégoût. C'est parce que dans ces situations-là, tu ne ressentais pas de dégoût. Mais dans la vie, tous les jours, il y a plusieurs fois où tu ressens le dégoût. Quand tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas du tout, alors que tu étais en train de t'amuser, tu peux ressentir du dégoût. Enfin...
Oui, c'est vrai, mais c'est quand même rare. Et... Enfin, c'est vrai que dans certains cas, c'est vrai que c'est une bonne émotion, mais pour moi, j'aime pas trop ressentir du dégoût parce que ça me veut dire que pour moi, je suis pas. Enfin, c'est pas que je suis une mauvaise personne, mais pour moi, c'est un truc que j'aime pas ressentir.
Moi, c'est qu'au lieu de dire négatif et positif, je pense que je dirais plutôt des émotions agréables ou désagréables.
Parce que oui, c'est vrai que le dégoût, c'est pas agréable à ressentir, alors que la joie, c'est plutôt agréable à ressentir. Comment vous voudriez conclure? Qu'est-ce que vous voudriez dire pour la fin?
Moi, j'ai bien aimé ce jeu, parce que ça permet de découvrir d'autres façons, d'autres versions de penser. Alors que nous, on a toujours les mêmes idées, donc d'entendre quelque chose d'autre, ça peut être bien. C'est un peu rigolo et puis ça te fait réfléchir à la fois.
Ça te montre comment les autres y pensent, différemment de nous.
Ça apprend à connaître d'autres émotions, pas que les tiennes que tu penses et que d'autres montrent quand même des émotions. Par exemple, ils disent l'enthousiasme, mais moi je peux dire la joie et ça peut être d'autres émotions, mais un petit peu les mêmes. C'est des détails.
Pour moi, j'aime bien ce jeu car tu peux découvrir ce que les personnes pensent et que parfois t'es « ouais, ça n'est pas bien » et après t'es « ah, mais ça peut être bien dans certaines situations » ou t'es « ah oui, j'avais pas pensé, mais c'est une bonne situation. »
Bah moi, j'ai bien aimé ce jeu aussi car tu arrives à te mettre à la place des autres, tu découvres de nouvelles émotions. Tu peux savoir aussi des fois que tu n'es pas la seule à penser cette émotion. Ça montre que je sais pas, tu es humain. Si on n'avait pas d'émotion, bon, on serait pas humain. Enfin, ça serait un peu triste la vie, quoi.
Je trouve que ça montre bien qu'on peut avoir des émotions qui sont différentes et auxquelles on pense pas forcément, et ça nous permet de connaître un peu plus les autres. Le fait de pouvoir entendre les émotions, ça leur procure une situation.
C'était sur Info RC, les émotions, avec Naila, Mathis et Colline qui enregistraient.
Expression plurielle. Une action soutenue par la préfecture politique de la ville, le département de l'Ardèche, la commune d'Aubenas et la caisse d'allocation familiale.